بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فاللون جتا الله سبحانه وتعالى سي notre troisième assise autour de l'étude du livre de la purification dans عمدة الأحكام avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Wa nahnu fi al-hadith al-sadis an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslim aw ulahunna bit-turab. Wa lahu fi hadith Abdullah ibn Mughaffal anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha walagha al-kalbu fi al-ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu Faminata bitturab. Et donc nous sommes dans le sixième hadith, inshallah, le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda, qui rapporte que le messager d'Allah a dit: lorsque le chien a lapé dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois, et dans la version de Muslim, la première fois avec la terre. Et dans l'autre version de Muslim, الحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه مجمعين rapporte que du message عليه الصلاة والسلام lorsque le chien lape dans le récipient, lavez-le sept fois et frottez-le la huitième fois avec la terre. فيقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث الثاني. عبد الله بن المغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقه الناس بالبصرة، ومات فيها سنة 53 للهجرة رضي الله عنه وارضاه. Et donc au niveau des rapporteurs du hadith, يا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه, nous avons vu sa biographie lors du deuxième hadith. Et là, il y a un deuxième rapporteur aussi dans ce hadith. Abdullah ibn Mughaffal, le Mouzani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Son noble compagnon a fait l'allégeance de l'agrément sur l'arbre, l'allégeance qui a été faite à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'année où les polythéistes ne nous ont pas laissé aller faire leur umrah. Et radiyallahu anhu arda, quand ils étaient sur l'arbre pour faire l'allégeance, ils tenaient les branches de l'arbre pour qu'ils ne touchent pas le visage du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'un des 10 hommes de science et l'un des 10 jurisconsultes que Omar ibn Khattab a envoyé vers le Basra pour enseigner aux gens la religion. Et il est mort à le Basra en Irak en l'an 59 de l'Hijr. وموضوع الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. Et le sujet du hadith, c'est le fait, la méthode, l'éclaircissement sur la, ou la clarification de la méthode pour laver le récipient de l'impureté du chien. شرح الكلمات شرب عب الماء ونحوه من السوائل أو مصه. الكلب حيوان معروف وآل استغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب. فليغسله اللام للأمر. سبعا أي سبع غسلات. أولاهن الأولى منهن بالتراب، الباء للمصاحبة أي مع التراب. ولغى أي شرب وادخل طرف لسانه وحركه. عفروه ادلكوه بالعفر وهو التراب، بالتراب الباء للإلساق. ويأتي الشرح الإجمالي يقول رحمه الله: الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير عليم بما ينتج عن بعض مخلوقاته من أضرار وبما يقاومها ويدافعها مما يزيل خطرها. وهنا وها هي الكلاب قد أثبت الطب أن في لعابها ميكروبات وأقذارا لا تزول ولا تندفع مضرتها إلا بتطهيرها بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو هريرة وعبد الله بن مغفل يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يغسل أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب 7 مرات بالماء، ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب لتزالة تلك الميكروبات والأقذار. إذن le sens général de ce hadith, c'est que la législation musulmane, c'est la législation de celui qui a fait les choses à la perfection, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et à qui n'échappe rien subhanahu wa ta'ala. Il sait tout. Il sait le mal qui provient de certaines créatures, comme il sait comment le repousser et comment s'en protéger subhanahu wa ta'ala. Regardez, maintenant la médecine a prouvé l'existence de des microbes qui sont dans la bave du chien, et les impuretés qu'il contient dans le mal ne peut être repoussé que par ce que le messager a transmis. Voilà Abu Hurayra radiallahu anhu arda, et Abdullah ibn Mughaffal rapporte que le messager a ordonné de laver 7 fois tout récipient dans lequel le chien a lapé, en le frottant avec la terre pour faire disparaître ses microbes et ses impuretés. يقول رحمه الله فوائد الحديث أن لعاب الكلب أي ريقه نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما. ثانيا أن نجاسته أغلظ النجاسات. ثالثا وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداهن بتراب، والأحسن أن تكون الأولى. رابعا إذا وجب التطهير من ولوغه بما ذكر، فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى. خامسا الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. سادسا إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب الحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشمل عليه من أمراض. Et donc les leçons à retenir de ce hadith. La première des leçons, c'est que la bave du chien est impure, ainsi que tout ce qui sort des parties du corps de celui-ci, l'urine, la sueur et d'autres. Deuxièmement, c'est que c'est une grande impureté, c'est l'impureté du chien est une grande impureté. Troisièmement, on retient aussi l'obligation de laver le récipient dans lequel a lapé le chien 7 fois, dont une avec la terre. Et il est meilleur que ce soit la première, que le lavage avec la terre soit le premier lavage. La quatrième leçon, c'est qu'il est obligatoire de laver ainsi la bave du chien, dont il faut purifier aussi son urine. Donc il faut purifier son urine ainsi que ses excréments et d'autres saletés du chien. Cinquièmement, le hadith stipule l'obligation de purifier avec l'eau et la terre dont il ne peut être purifié qu'ainsi. Donc il ne peut être purifié qu'ainsi, sauf si l'on ne peut pas ou on ne trouve pas. Sixièmement, la confirmation de l'un des signes de la prophétie du messager alayhi salam, qui atteste la véracité et l'authenticité de son message alayhi salatu wassalam. La médecine moderne a prouvé la grave impureté de la bave du chien de par les maladies que contiennent celles-ci. Wa huna ikhtilafun wa jam'a fi hadith Abu Huraira falyaghsilhu 7 marrat wa fi riwayat limuslim ulahun bi at-turab. أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها. والجمع بينهما أن نقول المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على 7 غسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة، وعلى هذا فلا يخالف أن تكون في الأولى، والله أعلم. Et aussi ici il attire notre attention sur une divergence et comment réunir entre ces deux choses qui apparaissent en divergence dans le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal et dans le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda. Abu Hurayra, dans le hadith d'Abu Hurayra, il est dit qu'il faut le laver 7 fois.
Et dans la version du muslim, la première avec la terre. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal, lavez-le 7 fois et frottez la 8e avec la terre. Il paraît que ces 2 hadiths sont en divergence. Il paraît que cette expression soit en divergence avec celle d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda. Dans le nombre de fois du lavage et dans la place de celle qui doit se faire avec la terre. Là, il y a la divergence. Dans l'apparence. La réunion entre les 2 hadiths dit Cheikh Al-Uthaymeen qu'on dise que ce qui est voulu avec la 8e dans le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal, que c'est une 8e qui est un plus que les 7, qui est un plus que les 7 lavages avec l'eau, et non pas celle avec la terre, et non pas que celle avec la terre doit se faire en dernier. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune divergence. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala sait. Ça veut dire que dans le hadith d'Abdullah ibn Ghaffal, il y a 8 fois. Mais cela ne veut pas dire que la dernière doit se faire avec la terre. Ah, et dans le hadith de Abu Huraira, il y est stipulé comme quoi la première se doit faire avec la terre. Donc, il n'y a aucune contradiction. C'est que dans le hadith d'Abdullah ibn Ghaffal, il y a un lavage de plus qui est 8e. Et ça, c'est la façon de faire des hommes de science pour réunir entre toutes les choses qui peuvent porter des confusions et des ambiguïtés dans la tête et dans l'esprit des gens. Allah subhanahu wa ta'ala les accomplit de cette science et de cette clairvoyance pour sortir les gens des ambiguïtés et des confusions. Le hadith du Sabi' an Himran مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم دوك لو 7e حديث سي الحديث دو حمران لو سيرفيتور دو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. Il rapporte que ce dernier, c'est-à-dire Uthman ibn Affan, demanda qu'on lui apporte de l'eau pour leur montrer comment se fait l'eau du messager, alayhi salatu wassalam. Et il versa de l'eau sur ses mains. Il les lava 3 fois en dehors du récipient. C'est-à-dire, il verse 3 fois l'eau sur ses mains pour les laver jusqu'au poignet. Puis, il plongea ensuite sa main droite dans l'eau, puis il se rinça la bouche et inspira de l'eau par le nez, puis il lava son visage 3 fois, puis ses 2 mains avec les coudes 3 fois, puis il passa ses mains mouillées sur sa tête, puis il lava ses 2 pieds 3 fois. Et puis il a dit, c'est-à-dire le messager a dit, Uthman ibn Affan a dit, j'ai vu le messager effectuer les ablutions comme je viens de le faire. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui accomplit les ablutions comme vous me les avez vu faire, et puis accomplit 2 unités de prière sans être distrait, verra ses péchés précédents pardonnés par Allah. Le hadith, il est rapporté par Imam Bukhari ou Imam Muslim. الراويان هنا حمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين من 70 التمر اعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات 75 رحمه الله تعالى. Le premier transmetteur dans ce hadith c'est حمران بن أبان بن خالد qui est un digne de confiance parmi les successeurs des nobles compagnons de Allah عليهم. Il faisait partie du butin de la bataille de Ain Tamr. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, l'a affranchi. Et après, il est allé vivre à Al-Basra, où il est mort au long 57 de l'Hégire. Rahimahullah ta'ala. Plus tard, Inch'Allah. Donc, Himran ibn Aban, quelqu'un de, un homme de confiance. Regarde cette description, comment les hommes de science dignes de confiance. Pourquoi? Parce que ceci est très important dans la science des hommes et dans la recherche de, dans la chaîne des, de transmission du hadith. Cela te prouve la minutie sur laquelle est basée la science du hadith. Chaque homme sera classé selon ses qualités. Là, Himran ibn Aban ibn Khalid, digne de confiance parmi Tabi'in, la génération qui a suivi au noble compagnon Ardouallah Alim. Et c'était quelqu'un, un esclave, qui venait de, du butin de la bataille de Intamr, que Uthman a affranchi par la suite, et il est allé vivre à Al-Basra où il est mort en l'an 57 de l'Hégire. Le deuxième rapporteur de ce hadith, le deuxième transmetteur dans ce hadith, Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, ibn Umayya, le Qurashi, le Umawi, le prince des croyants, rahimahullah ta'ala. Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, ibn Umayya, le Qurashi, amir al-mu'minin, wa talit khulafa al-muslimin, aslama qadiman ala yadi Abi Bakr radiyallahu anhu majma'in, wa hajar al-hijratayn, وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم فسمي ذي النورين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبشره بالجنة وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى في أول يوم من المحرم سنة 24 للهجرة وقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة سنة 53 سنة 35 للهجرة وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه وارضاه. Et donc le deuxième transmetteur qui est Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, ibn Umayya al-Qurashi, le Qurayshite, l'Umayyad, le prince des croyants, le troisième calife des musulmans, parmi les premiers convertis à l'islam. Il a été converti par le biais d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa arda. Il a effectué les deux émigrations vers l'Abyssinie. Le prophète l'a marié avec Safi Ruqayya, radiyallahu anhu majma'in, et quand celle-ci est morte, le prophète, alayhi salam, l'a marié avec sa deuxième fille, Kalthoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et c'est pour ça qu'il a été surnommé Dhun-Nurayn, l'homme aux deux lumières. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a certifié qu'il allait mourir en martyr. Qu'il sera martyr. Et il lui a annoncé le paradis, alayhi salatu wassalam. C'est le prophète qui a fait pour lui, pendant l'allégeance de ce larbre, l'allégeance de Ridwan ou de l'agrément, Uthman ibn Affan était le délégué du prophète, alayhi salatu wassalam, chez le Qurayshite là-bas à la Mecque. Cette année-là où les Qurayshites n'ont pas voulu laisser les compagnons du prophète faire le Umrah. Et donc, comme il était absent, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en son absence, il a demandé qu'on lui fasse l'allégeance. Les compagnons ont fait l'allégeance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main, sa noble main, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, celle-là, c'est celle de Uthman ibn Affan. Donc l'allégeance de Uthman ibn Affan pour le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'est faite avec la noble main du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été khalif après le prince des croyants Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda, par l'allégeance du comité de la concertation. Le comité qui a demandé Omar ibn Khattab qu'il soit formé pour Shura, c'est eux qui l'ont désigné, qui lui ont fait l'allégeance. Hein? Et ceci, le premier du mois, le Muharram, au nom 24 de l'Hégire. Il a été tué martyr après la prière de l'Asr du vendredi, le 18e jour de Dhul-Hijja, en l'an 35 de l'Hégire. Il a été enterré la nuit du samedi, c'est-à-dire au moment du coucher de soleil du vendredi. Sa tombe est connue au cimetière d'Al-Baqiya. Wa na'ti ila mawdu'i al-hadith. Bayan kayfiyat wudu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet du hadith traite de la démonstration de l'eau du prophète alayhi salatu wassalam. Wa na'ti ila sharh al-kalimat mawla Uthman ay atiquhu da'a bi wudu' talaba ma an yatawadda'u bi wal wudu' بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به وبضمها نفس فعل الوضوء فأفرغ فصب على يديه على كفيه يمينه يده اليمنى في الوضوء بفتح الواو الماء تمضمض أدار الماء في فمه استنشق سبق معناها في الحديث رقم 4 استمطر سبق معناه في الحديث 4 وجهه الوجه معروف وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا إلى المرفقين إلى بمعنى مع والمرفقان تثنية مرفق وتثنية مرفق وهو مفصل العضد من الدراع مسح برأسه أمر يده عليه مبلولة بالماء وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة نحو شبه وضوء بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء لا يحدث فيهما نفسه لا يفكر في شيء خارج عن صلاته غفر له غفر الله له والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه تقدم أي سبق ذنبه معصيته والشرح الإجمالي يقول الشيخ رحمه الله كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة ولما كان التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس دعا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بماء يتوضأ به ليعلم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فغسل كفيه ثلاثا لأنهما آلة الغسل ثم تمضمض واستنشق واستمطر لتطهير فمه وأنفه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء ثم قال من توضأ أي الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته غفر الله له ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته إذنك لسون جنرال دو حديث لنوبل كومبانيور دو الله عليهم ذي أنسني وجون لسيونس يبروباجي لسنة دو بروت عليه الصلاة والسلام يبروديجي لكونسي لكومينوتي. Et vu que l'enseignement, par la pratique, donne une conception de l'acte, il permet très vite de le comprendre et permet la fixation de l'acte dans l'esprit, le prince des croyants, Uthman ibn Affan, a demandé l'eau pour accomplir l'odo devant eux, pour apprendre aux gens comment était l'odo du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a commencé par laver ses mains 3 fois en dehors du récipient. Car les mains se sont litues du lavage. Et puis il s'est rincé, inspiré l'eau par le nez. Et il l'a rejeté pour purifier la bouche et le nez. Et puis il a lavé son visage 3 fois. Puis il a lavé ses mains avec les coudes 3 fois. Puis il a essuyé sa tête. Et puis il a lavé ses pieds 3 fois. Et puis, Uthman ibn Affan a annoncé qu'il a vu le prophète effectuer les ablutions comme il l'a fait. Radiallahu anhu arda. Et il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui effectue le dos comme je l'ai fait et puis accomplit deux unités de prière sans être distrait avec des choses qui n'ont pas rapport avec la prière verra ses péchés précédents pardonnés. Ses péchés pardonnés par Allah comme récompense pour la bonne façon avec laquelle il a accompli le dos et la prière. Tu remarqueras ici, Uthman ibn Affan l'aura dit, hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le dos comme je l'ai fait. Ça veut dire que, quand les hommes de science, ils disent, suivez les nobles compagnons, dans tout, dans leur compréhension, dans leur pratique, etc., qu'ils étaient dignes dans la transmission de ce qu'ils ont transmis du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'on ne saurait comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mettre en application comme il se doit qu'on parlera par leur voix, ridwanullahi alayhim. Hein? Regarde comment il s'est limité, il a attiré leur attention sur le fait que c'est comme ça que j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam faire le dos. Et il a dit ceci, cela. وتناتي الى فوائد الحديث اولا فيه فضيله امير المؤمنين عثمان بن عفان وحرصه على نشر العلم والسنه ثانيا انه ينبغي للمعلم ان يسلك اقرب الطرق الى الفهم ورسوخ العلم ان من فعل ثالثا ان من فعل العباده لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص اخلاصه رابعا مشروعية الوضوء بهذه الكيفية فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنتر ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثلاثا وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خامسا مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه سادسا فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية المذكورة سابعا أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء والله أعلم Et donc Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah al-di il dit les leçons à retenir du hadith. La première des leçons, les mérites du prince des croyants Uthman ibn Affan, et comment il veillait, radiyallahu anhu arda, à propager la science et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième leçon, il est demandé à l'enseignant d'utiliser la voie la plus courte pour la compréhension et la fixation du savoir. Troisième leçon, celui qui accomplit l'adoration, hein, avec l'intention pour Allah et son but, c'est aussi enseigner aux gens, cela ne diminue en rien sa sincérité dans l'acte. Ça ne diminue en rien sa sincérité. Aussi, la leçon, c'est qu'il est légiféré de faire le dos de cette manière. Il est recommandé de faire le dos de cette manière. Laver trois fois ses mains en dehors du récipient, puis rincer, inspirer et rejeter l'eau, puis laver le visage trois fois, et puis les mains avec les coudes trois fois, c'est-à-dire les coudes doivent être lavés avec les mains, puis essuyer la tête, puis laver les pieds trois fois. Ça, c'est la description de l'eau du messager, alayhi salatu wassalam. La cinquième leçon dans le hadith, veillez à l'ordre entre les membres de l'eau et ne pas mettre le dernier avant celui qui le devance. Ne pas mettre un membre avant celui qui le devance. La sixième leçon, les mérites des dorkat, dans lesquels la personne n'est pas distraite après cette manière de faire le dos. La septième leçon, la récompense de cet acte, qui est le pardon des péchés. On y retient le pardon des péchés précédents, et cela ne concerne que les petits péchés. Hein? dans la vie de la grande majorité des hommes de science, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Tu vois ici, t'as entendu parler de l'essuyage de la tête. Faut que tu comprennes de ça que les oreilles, tu les as pas entendues. Hein? Juste la tête. Savoir que les oreilles font partie de la tête. Les oreilles font partie de la tête. Comme il est stipulé, hein, dans les paroles des hommes de science et dans les prochains hadiths qu'on verra. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنطر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الطور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة أخرى فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر. Et donc le 8e hadith selon Amr ibn Yahya al-Mazini qui le tient de son père qui a déjà vu Amr ibn Abi al-Hassan al-Mazini interrogeait Abdullah ibn Zayd au sujet des ablutions du prophète alayhi salatu wassalam. Il demanda qu'on lui apporte, Abdullah ibn Zayd a demandé qu'on lui rapporte un récipient rempli d'eau. Et il a effectué pour eux les ablutions du prophète alayhi salatu wassalam. Il commença par verser de l'eau sur ses mains. Comme Uthman ibn Affan. Il lava trois fois ses mains en dehors du récipient. Puis, il introduit sa main droite dans le récipient et prend une poignée et rince la bouche et le nez en inspirant l'eau et la rejetant par la même poignée. La bouche et en même temps les narines. Hein, de la même poignée. Hein, et il a fait ça trois fois. C'est-à-dire avec trois poignées d'eau, il a vagué l'eau dans sa bouche et en même temps il a inspiré l'eau dont ses narines il a rejeté, radiyallahu anhu wa arda. Il se lava ensuite le visage trois fois et les mains avec les coudes deux fois. Et les mains avec le coude deux fois. Et puis il a mis ses mains dans le récipient et il a essuyé sa tête en allant du front à la nuque. Et puis, il se lava les pieds, puis il se lava les pieds. Dans une autre version, il commença par l'avant de la tête jusqu'à la nuque, puis revint vers l'endroit d'où il a commencé. Et dans une autre version, chez Muslim, le messager d'Allah est venu nous voir, nous lui avons apporté de l'eau dans un récipient de cuivre. Hein? Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Rouatou le hadith, Amr ibn Yahya, ibn Umara, ibn Abi Hassan al-Mazini, thika, asar al-tabi'in, walam yathbut lahu, yathbut annahu, walam yathbut annahu ra'a ahadan min as-sahaba, mata sanat 130 rahimahullah. الثاني أبو عمرو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله. الثالث عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واسم أبي حسن تميم بن عبد عمر قاله في فتح الباري. الرابع الراوي الرابع عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، وشارك في قتل مسيلمة ثم قتل يوم الحرة سنة 63. موضوع الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc les transmetteurs du hadith ici sont quatre: Amr ibn Yahya ibn Imara ibn Abi Hassan al-Mazini, digne de confiance. Il a vécu à l'époque des Tabi'in, à l'époque des successeurs des nobles compagnons de Allah alayhim. Et remarque ici, digne de confiance. Il n'a pas été confirmé qu'il a vu, qu'il avait rencontré un des compagnons. Donc il n'y a pas de confirmation qu'on croit, il ait rencontré un des compagnons. Et il est mort en l'an 130 de l'Hégire. La science des hommes, c'est les hommes du hadith, c'est quelque chose de minutieux. Hein? Et c'est une particularité de cette communauté qui est la particularité de la science de... Hein? La science de les chaînes de transmission. Et donc le deuxième transmetteur, Abu Amr Yahya ibn Amara ibn Abi Hassan al-Mazini, c'est-à-dire son père, successeur des compagnons, dignes de confiance aussi. Le troisième, Amr ibn Abi Hassan al-Ansari al-Mazini, c'était un compagnon. Et le nom d'Abi Hassan, comme l'a dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari, c'est Tamim ibn Abd Omar. Le quatrième transmetteur, c'est Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari al-Mazini. C'est un compagnon qui a assisté à la bataille de Uhud et toutes les batailles qui l'ont suivi. Il y a eu une divergence, est-ce que ce compagnon a assisté à la bataille de Badr ou pas? Mais il fait partie de ceux qui ont tué Mousseline al-Kaddab, le menteur. Il a été tué durant les événements de l'Harra à Médine en l'an 63 de l'Hégire. Le sujet du hadith, la démonstration de l'odeur du prophète alayhi salam. Et là, on se retrouve avec une des variantes de l'odeur du prophète alayhi salam. Donc, le sens hadith le sens du hadith du prophète alayhi salam. أيوة شرح الكلمات عن وضوء بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء والمراد سؤال عن كيفيته بتور التور ناء يشبه الطست تغسل به الأيدي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده أمال التور عليها ليصب الماء فغسل يديه أي كفيه يده في الطور فمضمض الفاء حرف الفاء حرف عطف على محذوف والتقدير فاخترف ماء فمضمض مضمض سبق معنا في الحديث السابع استنشق واستنشر سبق معنا في الحديث الرابع غرفات جمع غرفة غرفات جمع غرفة وهي أخذ الماء باليد وجهه سبق حده في الحديث رقم 7 إلى المرفقين سبق معنا إلى والمرفقين في الحديث رقم 7 مسح رأسه سبق معنا مسح في الحديث رقم 7 وبيان حد الرأس فأقبل بهما بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعني مقدمه وأدبر رجع بهما من دبور الرأس أي مؤخره إلى الكعبين إلى بمعنى مع والكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق ذهب بهما إلى قفاه أوصل يده إلى قفاه والقفا مؤخر الرأس والعنق أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا إما زائرا أو مدعوا صفر نحاس أصفر من جيد النحاس والشرح الأجمالي يقول الشيخ رحمه الله من أجل حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على اتباع السنة كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صحابي سأل صحابيا آخر عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمه عمرو بن أبي حسن يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنه عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الله أن يبينها له بصورة فعلية، لأن ذلك أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس. فطلب إناء من ماء وأحضر، فبدأ أولا بغسل كفيه لأنهما آلة الغسل، فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاغترف منه ثلاث غرفات يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنتر، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يديه في الإناء فمسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة، ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه. صنع هكذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره، فيعم المسح ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وبين عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أتاهم فأخرجوا له ماء في طور من صفر يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم. بين ذلك عبد الله ليثبت أنه كان على يقين من الأمر. إذنك لسون جنرال du hadith, tellement les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim veillaient à suivre la sunna qu'ils se posaient les questions mutuellement. Là, ce sont un compagnon qui a posé la question à un autre compagnon. Hein? Ils se posaient mutuellement les questions sur les actes du prophète alayhi salam pour le suivre et pour le prendre comme modèle dans leurs actes et pour suivre sa sunna. Dans ce hadith, Amr ibn Yahya al-Mazini rapporte de son père qui a vu son oncle Amr ibn Abi Hassan interroger Abdullah ibn Zayd. Et les deux, ce sont deux compagnons. L'un, Abdullah ibn Zayd, l'un des compagnons, sur la façon d'effectuer l'odo du messager alayhi salatu wassalam. Abdullah a voulu la lui montrer en l'effectuant devant lui. Car la pratique de l'acte donne une conception de l'acte et permet de le comprendre tout de suite, et c'est la meilleure et la plus rapide façon pour qu'il se fixe dans l'esprit. Donc Abdullah a demandé un récipient d'eau et il a commencé par se laver les mains jusqu'au poignet en versant de l'eau, pas en mettant les mains, en versant de l'eau du récipient, car les mains c'est l'outil du lavage, donc il les a lavées en premier. Puis il a introduit la main dans le récipient et il a pris trois poignées, c'est-à-dire par trois fois, pour vaguer l'eau dans sa bouche et en même temps inspirer l'eau et la rejeter de par la narine avec une seule poignée. Donc trois fois, les trois poignées pour les trois lavages. Trois fois pour la bouche et trois fois pour le nez. Hein? Et donc en même temps, il vaguait l'eau dans la bouche et en même temps il inspirait dans les narines et il rejetait. Il a fait ça trois fois pour rincer la bouche avec chaque poignée, se rincer et inspirer l'eau dans son nez, il a rejeté et puis il a repris de l'eau par trois reprises pour se laver le visage trois fois. Et puis il a repris de l'eau pour laver ses mains avec les coudes deux fois seulement. Ici il a lavé les coudes deux fois. Et puis il a introduit sa main dans le récipient et il a essuyé la tête avec ses deux mains, en commençant par l'avant de la tête et en allant vers, en allant avec la main jusqu'à la nuque. Et il est retourné vers l'avant de la tête. Il est retourné de là où il a commencé l'essuyage. Et il a fait ainsi, en essuyant de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, pour que l'essuyage couvre l'apparence de ce qui est caché, des cheveux. Et puis il a lavé ses pieds jusqu'aux chevilles. À pas raconter le nombre ici. Il a lavé le pied jusqu'à cheville, ça veut dire les chevilles rentrent dans le lavage. La limite du lavage n'est pas les chevilles rentrent dans le lavage. Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu arda, quand il a terminé les pieds, il leur a dit que ça, c'est ce qu'a fait le messager d'Allah quand il est venu nous voir. Hein? Quand il est venu nous voir, c'est ainsi qu'a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont ramené un récipient en cuivre jaune, d'eau, pour qu'il fasse ses ablutions, alayhi salatu wassalam. Abdullah a dit cela, a dit que c'est comme ça qu'il a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour certifier qu'il a la certitude sur ce qu'il a fait. Radiallahu anhu arda. Pour certifier la certitude de ce qu'il a fait, il a dit, c'est comme ça que j'ai vu le prophète, alayhi salam, quand il est venu nous visiter, hein, et quand on lui a présenté un récipient de cuivre pour faire le dos. ونأتي إلى فوائد الحديث أولا حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتأسوا به فيها ثانيا سلوك المعلم أقرب لوسائل للفهم ورسوخ العلم ثالثا مشروعية الوضوء على هذه الكيفية يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنتل ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم يمسح رأسه بيديه بيبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رابعا مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه خامسا تجديد ماء الوضوء لكل عضو فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا سادسا جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين مرتين والرجلين بدون عدد فيصدق بمرة واحدة سابعا جواز الوضوء بآنية الصفر ثامنا ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خبره donc le sens du hadith Donc le sens général du hadith, j'ai déjà passé le sens. Donc les leçons à retenir du hadith, la première des leçons nous montre comment Salaf veillait à connaître la sunna du prophète alayhi salam pour faire comme lui. La deuxième leçon, l'enseignant doit prendre le chemin le plus court pour la compréhension et la fixation de la science. Et du savoir. La troisième leçon est les légers ferrus de faire le dos de cette façon, qui est dans le hadith de Abdullah ibn Zayd. Laver les mains jusqu'au poignet trois fois, puis rincer la bouche et inspirer, rejeter l'eau avec trois poignées d'eau, et puis laver le visage trois fois, et puis les mains avec le coude deux fois, et puis essuyer la tête en commençant de l'avant et en allant vers la nuque. Et puis retourner au point de départ, et puis laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est une des façons. Et puis laver les pieds avec les chevilles, hein, pas jusqu'aux chevilles, avec les chevilles, c'est une des façons avec laquelle le prophète a effectué le dos. Quatrième leçon, de respecter l'ordre du lavage du membre et ne pas mettre le dernier. Un dernier membre avant celui qui le précède. Cinquièmement, renouveler l'eau pour chaque membre de l'eau d'eau et que la personne n'essuie pas sa tête par ce qui reste du lavage de ses mains, par exemple. Sixième leçon, il est permis de laver certains membres une fois plus que d'autres, car il est cité dans le hadith le lavage du visage 3 fois et les mains avec le coude 2 fois et les pieds sans nombre, donc il peut se faire une seule fois. Hein? Et la 7e leçon, il est permis d'utiliser pour le dos un récipient de cuivre. La 8e leçon, celui qui rapporte l'information rapporte aussi ce qui prouve son information. Tout ceci, tu le retiens de ce hadith. Et tu remarques avec moi que Cheikh Rahmatullah Alayh va tout simplement avec le hadith. Comme c'est un fascicule et un livre, une interprétation qu'il a fait pour la 5e, hein, la 5e du collège, hein, pour le niveau de la 5e, bah c'est le début de l'apprentissage, donc c'est une fondation. Donc il est allé en donnant juste, hein, il n'est pas rentré dans les divergences, hein. On livrera, Inch'Allah, une autre fois, quand on prend le livre de la purification à travers Bulugh al-Maram, on verra que Cheikh là est détaillé dans 2-3 divergences entre les hommes de science, etc. Al-Hadith al-Tasi' عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Le 9e hadith, عائشة رضي الله عنها a dit, le messager d'Allah aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses sandales ou ses chaussures, hein, et par la droite lorsqu'il mettait ses sandales, lorsqu'il se coiffait ou il soignait ses cheveux, lorsqu'il faisait ses ablutions, et en toutes circonstances, il aimait commencer par la droite, alayhi salatu wassalam. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Rawi Aisha, sabakat tarjamatuha, mawdou'u al-hadith, bayan hukmi tayammuni fil umur. Sharh al-kalimat, kana fi'lu madhi naqis, wa idha kana khabaruha mudari'an dallat ala al-istimrari ghaliban. Yu'jibuhu, yasurruhu. وفي رواية يحب التيمن البداءة باليمين تنعله لبس نعله ترجله تسريح شعره ودهنه وتجميله طهوره بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل شأنه أي أمره والمراد هنا جميع أمره. ونأتي إلى الشرح الإجمالي. التيمن يمن وبركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن في لباس نعله وفي إصلاح شعره وطهارته وجميع شؤونه. إذنك le sujet de ce hadith de Aïcha رضي الله عنها, puisque nous avons vu déjà auparavant la biographie de Aïcha, le sujet du hadith, c'est le statut de commencer par la droite dans toutes les circonstances. Hein? Dire qu'il est recommandé de commencer avec la droite dans toutes les circonstances. Tout ce qu'on veut faire, on veut entreprendre. Et le sens du hadith nous dit, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, commencer avec la droite, c'est source de beaucoup de bénédictions et beaucoup de bien. C'est pour ça que le prophète alayhissalam aimait tout commencer à entreprendre par la droite. Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, a annoncé cela. Et il est que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, la mieux placée et celle qui connaissait plus les situations du prophète alayhissalam. Et radiallahu anha a annoncé que le prophète aimait commencer par la droite quand il mettait ses sandales, quand il soignait ses cheveux, quand il les peignait, etc. Et lors de sa purification et en toutes circonstances. ونأتي إلى الفوائد الحديث. أولا مشروعية البداء باليمين في الوضوء والغسل. فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بالشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. ثانيا مشروعية البداء بالرجل اليمنى في لبس النعل وكذلك لبس الخفين والجوارب والثياب. ثالثا مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله وكذلك عند حلقه. رابعا مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار كدخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب، فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها. خامسا كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة النظافة في ترجيل الشعر وغيره. Et donc les leçons à retenir du hadith de Aïcha radiallahu anha wa ardaha, dans le hadith il y a la recommandation de commencer par la droite dans le dos, dans le ghusl aussi, dans le dos il commence par la main droite avant la gauche et par le pied droit avant la gauche. Et dans le ghusl, dans le lavage de la janaba ou le ghusl du jumu'ah ou autre, on commence par la moitié droite de son corps avant la moitié gauche. Et deuxièmement, la leçon à retenir, la recommandation de commencer, pour mettre ses chaussures et ses sandales, par le pied droit. Il en est de même pour les chaussettes, ou pour les chaussettes en cuir, ou pour n'importe quel genre de chaussettes ou de soquettes, de commencer toujours par la droite, et pour n'importe quel vêtement, de commencer par la droite. Et aussi, il est recommandé de commencer par le côté droit quand on soigne ses cheveux, quand on les peigne, ou quand on les rase, ou quand on les coupe. De commencer toujours par le côté droit. Et de demander au coiffeur de commencer par le côté droit. Que ce soit au moment de les raser, que ce soit au moment où on va pour les couper. La quatrième leçon, la recommandation de commencer par la droite dans toutes les circonstances, à l'exception des choses que la législation a recommandé de faire par la gauche, comme le fait de rentrer aux toilettes, comme le fait de se laver des impuretés, et comme le fait d'enlever les chaussures et les vêtements, on commence par la gauche, et pour toutes les choses similaires à cela. La septième leçon, c'est que ce hadith nous montre que la sunna du prophète alayhi salatu wasalam est complète. Regarde comment il commande de soigner et de s'occuper des cheveux, de les nettoyer, de les soigner. ونأتي إلى الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهم. On arrive au dixième hadith, le hadith de Nu'aym, le Mujammer, radiyallahu anhu arda, qui tient ce hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu arda. Abu Hurayra a dit, au jour de la résurrection, les membres de ma cour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Abu Hurayra, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, les membres de ma communauté seront appelés, le visage et les extrémités des bras et des jambes seront d'une blancheur éclatante, en raison des ablutions. Celui qui peut étendre cet éclat de blancheur, qu'il le fasse. Dans la version de l'imam muslim, Nu'aym al-Mujammer dit, j'ai vu Abu Huraira faire les ablutions, il se lava le visage puis les mains jusqu'à pratiquement atteindre ses épaules. Et il se lava ensuite les pieds jusqu'au tibia. Puis il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, certes les membres de ma communauté seront appelés, leur visage et les extrémités de leurs bras et de leurs jambes seront d'une blancheur éclatante que celui d'entre vous qui peut étendre l'éclat, cet éclat de blancheur, qu'il le fasse. Dans une version de Muslim, j'ai entendu, toujours Abu Huraira, j'ai entendu Khalili dire la parure du croyant couvrira tous les membres de des ablutions. Rawiyan Abu Huraira marrat tarjamatuhu. Wa tani Na'im ibn Abd al-Mujammir thiqa min at-tabi'in. Luqiba huwa wa abuhu bil Mujammir. لأن كل واحد منهما يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. وموضوع الحديث بيان فضيلة الوضوء وثوابه. Donc les deux rapporteurs du hadith, Abu Huraira, nous avons déjà vu auparavant sa biographie. Reste Naïm, Nu'aym ibn Abdillah al-Mujammir, c'est un digne de confiance parmi les tabi'in. Il a été surnommé, ainsi que son père le Mujammir, ça vient de Mujmar, le bras zéro. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils parfumaient, ou il faut augmenter, ils mettaient de l'encens dans le bras zéro, ils parfumaient la mosquée du prophète, alayhi salam. Et le sujet du hadith, les mérites de l'odo et ses récompenses. ونأتي إلى الكلمات إلى شرح الكلمات أمتي جماعتي والمراد بهم من آمن به واتبعه عليه الصلاة والسلام يدعون ينادون للحساب يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبور مبعوثين للحساب غرا بالنصب على الحال من الوافي يدعون جمع أغر والغرة بياض في وجه الفرس والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء من آثار الوضوء من للتعليل والآثار جمع أثر وآثر الشيء ما يعقبه ناشئا عنه والوضوء بضم الواو استطاع قدر يطيل يمد رأيت أبصرت والرأي نعيم المجمر كاد قرب يبلغ يصل المنكبين تثنية منكب وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد الساقين تثنية ساق وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين خليلي من اتخذته خليلا والخليل من بلغت محبته أعلى منازل المحبة والمراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلية الزينة من مصوغ الذهب وغيره والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة والشرح الإجمالي خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيرهم ولله الحمد وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس تلك بأنهم يأتون يوم القيامة وجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا وذلك من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله عز وجل وتعظيما لشأن الصلاة ثم يقول من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يطبق ذلك بالفعل فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء وكفى بذلك ثوابا وفضيلة et donc le sens général du hadith Allah a donné à cette communauté des spécificités dans ce bas-monde et dans le-delà, que les autres communautés n'ont pas eu, ni dans ce bas-monde, ni dans le-delà. Et la louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Abu Hurayra radiallahu anhu annonce du prophète alayhi salatu wassalam qu'Allah a privilégié cette communauté par une grande spécificité le jour de la résurrection, que les autres communautés n'ont pas et n'auront pas. Le jour de la résurrection, les membres de cette communauté viendront avec des mains, des pieds et des visages illuminés par une blancheur éclatante. Ceci à cause des ablutions qu'ils effectuaient dans ce bas monde, par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et par révérence de la prière. Et puis il a dit, celui qui peut étendre cet éclat de blancheur, qu'il le fasse en dépassant la limite de la purification du membre. Et la version de l'imam Muslim nous montre que Abu Huraira mettait en application cet acte en lavant ses mains jusqu'à pratiquement ses épaules et les pieds jusqu'au tibia. Et qu'il a entendu le prophète, il a dit qu'il a entendu le prophète alayhi sallam dire que la parure du croyant couvrira tous ses membres touchés par les ablutions. Quand? Le jour de là, dans le paradis. Et nati ila durus al hadith. Fawaid al hadith. أولاً إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. ثانياً فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء. ثالثاً فضيلة الوضوء. رابعاً الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. خامسا طلب مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لطول الغرة والتحجيل. وقيل لا يطلب ذلك لأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يزيد على حد الوجه ولا عن المرفقين والكعبين إلا يسيرا للاحتياط، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم. وهنا تنبيه، قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الذي برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا، وهو معناه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. donc les leçons du hadith la Premièrement, la confirmation de la résurrection et de la et des rétributions. Deuxièmement, les mérites des membres de cette communauté, car ils viendront le jour de la résurrection, les visages et membres de l'odo illuminés et éclatants de blancheur à cause des ablutions. Troisièmement, les mérites de l'odo. Quatrièmement, la récompense de l'odo, cette luminosité et blancheur le jour de la résurrection. Et c'est aussi la parure du croyant au paradis. La parure du croyant au paradis couvrira l'étendue des membres touchés par l'odeau. C'est-à-dire l'embellissement. La parure, c'est un embellissement. Cinquième leçon, il est demandé dans le hadith de dépasser la limite du membre de l'odeau dans le visage, dans le lavage du visage, des mains et des pieds, pour cet éclat de lumière et blancheur, pour que cet éclat de lumière et de blancheur s'étende. Mais il a été dit, il y a une divergence chez les hommes de science. Il a été dit que non, qu'il n'est pas demandé, car la parole qui dit celui qui peut étendre l'éclat de cette blancheur, qu'il le fasse, ceci n'est pas la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci, c'est la parole d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda. Et donc, on ne dépasse pas la limite du visage, et on ne va pas trop loin des coudes, en avant les coudes et les chevilles, on ne va pas trop loin non plus, on ne remonte pas trop loin des chevilles. Car Abu Huraira faisait le dos, il avait les mains presque jusqu'aux épaules et les pieds jusqu'au tibia. Et il a dit, c'est comme ça que j'ai vu le prophète alayhi salam faire, comme il est rapporté par Muslim. Le sixième point, qui est un point important sur lequel attire notre attention, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, quand Abu Huraira a dit, j'ai entendu Khalili. Le khulla, c'est le degré le plus élevé de l'amour. Il n'accepte pas là qu'il soit associé. Hein? Il n'accepte pas qu'il soit partagé. Et donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas... Donc, ce qu'a dit Abu Hurairah radhiyallahu anhu, j'ai entendu Khalil, c'est-à-dire le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas en contradiction avec la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, je n'aurai pas de Khalil parmi vous. Hein? Là, le messager s'est désavoué d'avoir un Khalil en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens. Ah, donc lui ne prend pas de Khalil parmi les gens. Mais le fait que les gens le prennent comme Khalil, ceci est autorisé. Le prêtre que Abu Hurayr dit, j'ai entendu de Khalili, ceci est autorisé. Que la personne le dit. Mais pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, non. Son Khalil, c'est Allah. Parce que le Khulla, c'est un degré d'amour qui n'accepte pas le partage. Hein? Et on arrête là, inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.